Interview.
2 pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5, 101.7 sur Luc en Diwa. Et l'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Alice Corouane. Bonjour.
Bonjour.
Et de Dominique Joubert. Bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler d'un dispositif qui commencera par une réunion publique qui aura lieu le mercredi 8 juin à 18h30 en salle polyvalente. Alors, avant de commencer, Dominique Joubert, vous êtes adjoint à la communication et à la participation de la ville de Die.
C'est ça.
Et Alice Corouane, vous êtes conseillère municipale et vous faites partie aussi de la commission municipale qui lie l'alimentation, biodiversité et déplacement.
C'est ça.
Voilà, et donc vous êtes ici pour nous parler d'un titre qui s'intitule « Et si on éteignait la lumière ?»
Exactement. Donc pour commencer, on invite en fait les habitants de la ville de Die donc à une réunion publique qu'on souhaite participative mercredi prochain, donc comme vous l'avez dit, le 8 juin à 18h30, avec cette question de « si on éteignait la lumière ?» Parce que pour nous, c'est vrai que l'éclairage public, c'est un petit peu au croisement de différentes problématiques, que ce soit énergétiques, économiques, écologiques. Et donc, on a une vraie réflexion au sein de la commune et on se pose cette question éventuellement éteindre l'éclairage public en cœur de nuit. Il y a déjà aujourd'hui plus de 12 000 communes en France qui réalisent l'extinction nocturne, dont des grandes villes. Je peux penser à Thiers avec 12 000 habitants, Épinal, 33 000 habitants, une autre ville, Modio, dans le sud, avec 17 000 habitants. Et donc voilà, on veut inviter les habitants à vraiment se poser cette question et parce que c'est nous, on aimerait réussir à mettre ça en place assez rapidement.
Vous vous étiez renseigné comment c'était lancé cette opération d'extinction des lumières dans ces villes que vous avez citées ?
Oui, on a été en lien avec différents élus. On a essayé de, notamment, la ville de Strasbourg, donc qui est un petit peu la plus grosse ville qui travaille sur l'éclairage public, au niveau de son eurométropole. Ils ne font pas l'extinction nocturne, mais ils travaillent vraiment sur cette réduction de la pollution lumineuse. Et plus proche de chez nous, donc il faut savoir que sur le parc du Vercors, donc il y a 48% donc des communes du parc qui éteignent l'éclairage public. Donc bien sûr, on est sur pas mal de villages de petite taille, mais après on a également Cessin ou Novaré, donc qui sont des villes aussi qui pratiquent l'extinction. Et c'est sûr qu'il faut, c'est une démarche qu'il faut penser avec les habitants, parce que c'est sûr qu'il y a pas mal de fois des réticences, des craintes qui peuvent être parfois sur des peurs parfois qui ne sont pas tout à fait fondées, mais sur lesquelles qu'il faut écouter. Et donc l'idée c'est de réfléchir avec les habitants et pour amener cette problématique. Et après si on met donc l'idée c'est de mettre en place une expérimentation sur plusieurs mois et donc pendant ce temps vraiment d'observer ce qui se passe, de sonder les habitants, de faire une réunion publique à la fin. Et pour voir si tout le monde s'y retrouve.
Voilà, réunion publique, je le rappelle, qui aura lieu ce début juin. Dominique Joubert, vous donc êtes attelé aussi sur cette problématique. Quel est votre point de vue sur ce dispositif ou cette idée ?
Alors, je vais le dire avec un peu d'humour. Alors déjà, j'ai un crapaud, moi, dans le porte-monnaie. Un crapaud qui adore la pénombre et donc qui apprécie comme les 2/3 des invertébrés et 1/3 des vertébrés la nuit. Ils vivent essentiellement la nuit pour ce volume-là. Et puis le crapaud dans le porte-monnaie, c'est le coût de l'énergie qui a bondi. Alors je ne vous donnerai pas des pourcentages cette année, je vais vous donner un chiffre. C'est plus de 200 000 euros pour la ville de Die en 2022 sur l'ensemble de ces énergies. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des postes de non-consommation, d'économie. Et l'économie de l'éclairage nocturne à 3h du matin dans une rue où il passe peut-être un chat et encore c'est pas sûr. Et puis de toute façon, lui, il n'a pas besoin d'éclairage. C'est très, très bien. Bon, je vous ai aussi parlé de la biodiversité. Voilà, c'est vraiment ces deux éléments. Le troisième qui nous concerne plus directement aussi, c'est l'homme. On a eu, nous, dans nos réunions publiques, plusieurs personnes qui nous ont dit « on dort mal ». Et en plus, il y a la lumière dehors, donc votre lumière, là, si vous pouviez l'éteindre, ça serait bien. On a eu peu de remarques, on en a eu, hein, soyons honnêtes, sur la peur un petit peu, hein, sur « oui, il va faire nuit quand je vais rentrer ». Bon, quand on commence à dire qu'on va éteindre à 11h, 11h30, minuit, suivant les lieux, ça rassure. Mais on a eu beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de phrases de type « bon, bah, qu'est-ce que vous attendez là ? Faudrait se bouger un peu, la planète se réchauffe », que de non-demandes ou en tout cas d'obstacles forts.
Il me semble que dans les rues de Die, l'éclairage nocturne est équipé de lampes LED.
En partie, pas que.
Est-ce que ça, déjà, ça a pu permettre un gain d'économie ?
Oui, bien sûr. Bah, ça fait déjà quelques années donc, que la ville de Die s'est lancée dans la rénovation de ces éclairages. Parce que c'est vrai que tout le système ancien est assez énergivore. Et donc avec du remplacement en LED, mais donc sur une partie de la ville. Et c'est vrai que ce passage, ça permet déjà, le travail de rénovation de l'éclairage permet déjà une vraie réduction d'énergie. Donc je pense justement au changement de technologie avec le passage en LED. Mais c'est aussi réfléchir aux luminaires qu'on installe, donc avec des luminaires qui vont vraiment éclairer vers le sol et pour pas qu'il y ait une lumière perdue vers le ciel, parce que avec des luminaires anciens, je sais pas si vous avez imaginé ces boules un petit peu fluo, en fait c'est une lumière émise qui est perdue, enfin voilà, complètement perdue vers le ciel. Donc c'est vraiment réussir à mettre en place un éclairage sobre et intelligent qui éclaire vraiment là où on en a besoin, quand on a besoin, avec l'intensité dont on a besoin. Et juste pour vous donner des chiffres, en fait, par exemple, entre 1992 et 2012, sur l'éclairage public, on est à plus 89% de points lumineux. Donc c'est vraiment énorme. En fait, il y a eu une explosion de la lumière émise. Et depuis 20 ans, on dit qu'il y a une lumière émise qui est de plus 94%. Donc c'est vrai qu'on a tendance à éclairer encore et toujours plus. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse machine arrière.
Et puis cette augmentation du tarif de l'électricité, je pense que ça va accélérer le processus et motiver.
Oui, voilà, pour vous donner justement, par exemple, pour donner une idée un petit peu aux habitants de Die. Donc, comme le disait Dominique, le coût, donc le budget en fait global de l'électricité prend à peu près presque 200 000 euros en plus donc en 2022. Et pour vous donner une idée, donc sur l'éclairage public, on est environ, donc en 2021, on était autour de 50 000 euros de budget pour l'éclairage, et ça passera donc en 2022 à 90 000 euros. Et donc les chiffres que je vais dire maintenant sont bien sûr à prendre avec des pincettes, c'est des approximations. Mais si on partait donc sur une extinction nocturne de 5 heures, par exemple, de minuit à 5 heures, on pourrait faire par an, en fait, 45 000 euros d'économie à peu près. Hein, voilà.
Il y a aussi peut-être la notion de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui gère elle-même l'éclairage, par exemple en détectant un passage ou une personne ou un véhicule.
Alors la notion de détecteur, c'est vrai qu'on y a réfléchi par exemple pour des petites impasses, des petites ruelles qui aujourd'hui sont éclairées alors qu'il y a une ou deux maisons qui sont même parfois des résidences secondaires, donc où il n'y a personne. Donc là en effet on pourrait mettre en place des détecteurs dans ces ruelles-là, ce serait tout à fait propice. Après pour ce qui est justement les sur des avenues par exemple, donc la détection de mouvement avec donc l'éclairage qui s'allume à ce moment-là, on en a discuté par exemple avec un élu de Strasbourg où ils avaient testé ça, mais déjà la technologie donc cette technologie LED de détecteur est très chère, donc en fait après ça prend des années à amortir en fait le système, et c'est pas toujours adapté parce que entre en fait une voiture, un vélo ou un piéton, quand la lumière va s'allumer, la voiture sera déjà loin, le vélo sera déjà passé, et pour le piéton c'est peut-être pas tout à fait au bon moment non plus, et ça s'allume aussi quand il y a des chats ou des chiens qui passent. Donc voilà, c'est pas forcément approprié.
Donc c'est pas trop au point encore. Et donc ce moment de rencontre qui aura lieu à la salle polyvalente permettra à toute personne de venir peut-être se renseigner ou de pouvoir découvrir les intentions.
Bah, tout à fait, on invite vraiment tout le monde est le bienvenu et on espère les habitants nombreux, que ce soit les plus enthousiastes au projet, vraiment, et, mais aussi les personnes qui peuvent y être frileuses et qui ont des interrogations à ce sujet-là. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est que ce soit une réunion publique où les gens puissent échanger, en fait, sur cette problématique. Donc l'idée, c'est d'accueillir les gens, en fait, autour d'un petit, voilà, d'un pot convivial avec justement des différents éléments où on puisse se renseigner, des visuels, justement, sur la thématique de la pollution lumineuse, des villes qui pratiquent l'extinction nocturne aujourd'hui. Et voilà, après, avec un petit temps de présentation. Mais ensuite aussi, on va amener les habitants à se poser quelques questions et ensuite à échanger en cercle de parole, en petits groupes, parce que la parole se libère plus facilement en général en groupe. Et justement, sur ces questions-là, avant de faire une synthèse plus globale.
Il y a cet aspect donc de l'éclairage municipal pour amoindrir la facture. Mais qu'en est-il aussi de tous les commerces qui parfois ont leur vitrine allumée ? Est-ce que finalement, peut-être que ça servira, ça mettra un service aussi pour des personnes un peu réticentes à circuler dans le noir ?
Oui, tout à fait, parce que à ce sujet-là, sur cette thématique donc de l'éclairage privé, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est un travail de sensibilisation à faire. C'est réglementé, hein, il existe des lois à ce sujet-là. Donc par exemple, les commerces, les vitrines, les enseignes sont censés éteindre leur éclairage donc au maximum à 1h du matin ou 1h après la fermeture du commerce si celui-ci venait à fermer plus tard, et donc au plus tôt à 7h du matin. Mais ce n'est pas toujours respecté. Après voilà, on a fait des tours de ville nocturnes justement cet hiver. Globalement, vraiment dans l'hypercentre-ville, en fait, tous les commerces jouent le jeu. Quand on passe rue Camille Pfardel, presque tout est éteint, à part quelques exceptions. Après, c'est vrai que quand on va vers la zone artisanale la Zeda, Coco, Chamarge et tout ça, là, c'est vrai qu'il y a quelques entreprises qui éclairent beaucoup, avec souvent des lumières assez fortes et blanche. C'est aussi de comprendre les raisons du pourquoi et de sensibiliser et tout ça avant de passer à l'aspect, on va dire, plus coercitif, parce qu'il y a un rappel un petit peu à la réglementation à faire.
Ce dispositif de lampe à LED permet aussi de varier l'intensité lumineuse. Est-ce qu'il y aurait un minimum, peut-être, pour assurer les gens de manière à avoir un minimum d'éclairage ?
Oui, alors c'est vrai que cette problématique de la LED, c'est que elle permet au niveau des consommations énergétiques, de faire beaucoup donc d'économies. Après, c'est vrai que la LED, c'est une lumière, on appelle ça donc la lumière blanche, voire bleue. Donc c'est des degrés, en fait, on appelle ça des degrés Kelvin, et qui sont donc des lumières parfois plus éblouissantes, plus fortes. À l'époque, on savait pas faire, par exemple, de la LED ambrée orangée. Aujourd'hui, c'est possible, mais c'est vrai qu'elle est, par contre, donc elle est mieux en termes de respect de la biodiversité, de la santé humaine, mais elle consomme le rendement énergie. Et clairement, est moins intéressant. Mais par exemple, le parc du Vercors et aussi les réglementations nationales font un petit peu des préconisations justement sur les degrés en fait d'éclairement qu'il faudrait éviter de dépasser. Mais le problème, par exemple, d'éclairer peu un endroit et d'en éclairer fort un autre, c'est que ça crée en fait ça crée trop de différences. En fait, finalement, c'est pas plus dangereux, mais ça crée des zones d'ombre et des zones éclairées. Donc finalement, c'est plus intéressant d'avoir une homogénéité sur toute la ville. Donc par exemple, ça a déjà été sur le hameau de Plat. Ils ont déjà baissé la puissance des LED avec quelque chose de tout doux. Et finalement, on y voit très bien. Donc c'est vrai qu'on s'est aussi poser cette question de baisser l'intensité. Et ce qui serait intéressant, c'est justement de coupler par exemple un système d'extinction nocturne, par exemple en cœur de nuit, avec une gradation avec une baisse de l'intensité à partir de 10 heures. Là, ce serait optimal.
Il y a cette référence au parc du Vercors. Concrètement, quels sont les villages ou les villes qui se sont déjà mises dans ce dispositif ? Et d'ailleurs, est-ce que vous vous en référez également, vous, pour préparer ce futur éclairage de la ville ?
Le projet, en fait, donc je vais revenir sur le projet du parc du Vercors, comme vous le disiez. Donc, c'est le projet, en fait, de réserve internationale de ciel étoilé. Ils sont eux-mêmes en lien, en fait, avec l'International Dark Sky Association, donc qui est l'association internationale pour le ciel étoilé, le ciel noir. Et donc, le projet, en fait, c'est de créer au niveau des hauts plateaux, en fait, des hauts plateaux du Vercors, une réserve avec une qualité de ciel vraiment très, très bonne. Mais pour ça, donc, il y a certains indicateurs à respecter, des qualités de ciel, vraiment, il y a un contrôle. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une zone cœur où là, la qualité est optimale. Et après, toute une zone, en fait, une zone autour de cette réserve, donc avec toutes les communes dont DIF fait partie, justement, où toutes les communes participent, font un effort pour que la qualité de cette réserve soit la meilleure possible. Je sais qu'il y a 48% des communes qui éteignent sur le parc du Vercors. Je ne saurais pas vous dire lesquelles exactement suivent ce projet de réserve internationale, mais on est tous concernés. Voilà, Chamaloc est un, mais comme je disais, on a...
Ouais. Oui, alors on peut lors de nos, alors je fais référence à nos réunions de quartier, hein, on a eu au moins deux secteurs qui ont bien insisté, qui ne sont pas éclairés, hein, qui n'ont pas de alors je ne les citerai pas, hein, c'est à l'ouest et à l'est, hein, c'est vraiment deux secteurs, deux systèmes de quartier qui n'ont pas d'éclairage et qui n'en veulent surtout pas. Et qui ont dit surtout vous n'allez pas nous mettre de l'éclairage, ça va très très bien la nuit, c'est de l'habitat particulier, on peut parler sécurité, la sécurité... Alors, je vais vous livrer une anecdote. J'avais à l'époque, j'étais correspondant de presse, et dans la Loire, je suis allé voir il y a 22 ans, la première commune qui pratiquait l'extinction la nuit. Et il nous disait qu'en fait, il s'était aperçu que les regroupements nocturnes qui peuvent créer un sentiment d'insécurité, hein, je dis bien créer un sentiment d'insécurité, ils étaient sur un banc, sous une lampe. Et que du moment où on éteignait ces endroits de regroupement, ils ne se faisaient plus, ils se faisaient ailleurs. Ça permettait même d'un peu de gérer ces regroupements, de les éloigner des maisons. Voilà, la dernière chose que je dirais aussi sur la tranquillité publique, et les gendarmes sont très clairs là-dessus, éteindre complètement. Ils ne voient pas, c'est eux qui peuvent le constater, ils ne voient pas une augmentation de la délinquance, des vols, etc. etc. Et même sur certaines régions, c'est une baisse forte. Voilà. Donc la nuit n'est pas vecteur de peur peut-être, mais en tout cas pas d'insécurité croissante.
Par rapport à ces visites de quartier, ces rendez-vous de quartier, est-ce qu'il y a une prise en compte aussi du bien-être animal dans les villes pour l'éclairage, par exemple ?
Alors l'éclairage nocturne par rapport à la biodiversité, il perturbe les rythmes déjà, alors d'animaux comme l'homme, hein, mais des animaux tout court aussi, hein, qui vont continuer à vivre. Dans les plus grandes villes, on a vu, je vous donne des éléments, des reproductions tout au long de l'année, parce qu'il fait plus chaud au cœur des villes, mais aussi parce qu'il y avait de la lumière et que l'animal vivait pratiquement 24 heures sur 24, et c'est pas des villes américaines, c'est des villes françaises. Il y a aussi tout l'impact lié à ces points lumineux qui font croire à l'individu que c'est le jour ou que c'est le point où il faut se diriger. Un exemple, le Genève de l'autre côté du lac, les animaux qui migrent en nocturne, qui voient la lumière, qui disent c'est bon, c'est là qu'il faut aller, et pour les plus petits, c'était le rouge-gorge qui était suivi là, vont se noyer dans le lac parce qu'ils vont se retrouver fatigués à un moment, ils sont au-dessus du lac, ils sont perdus. Je peux vous redonner d'autres exemples. La luciole dont l'accouplement est lié à la luminosité du mâle, je suis désolé, s'il y a trop de lumière, on divise pratiquement, alors l'étude date, hein, parce qu'elle était du siècle dernier, on divise par 3 la reproduction. Donc il y a d'autres facteurs, hein, sur la luciole, mais voilà, on a besoin, en tout cas pour la biodiversité, d'une extinction forte, voire totale, dans les milieux les plus riches en biodiversité.
Et DIF en fait partie.
Et DIF en fait partie. Et comme, ouais. On reviendra vous voir pour l'Atlas de la biodiversité.
Mais ouais, juste pour compléter ce que dit Dominique, déjà voilà, par exemple, la majorité en fait des animaux sont nocturnes, donc 28% des vertébrés et 64% donc des invertébrés. Mais en fait, ça perturbe tous les animaux, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, parce que ça, donc comme il disait, ça perturbe les cycles, mais aussi les migrations, la reproduction, la chasse. Et en période estivale, par exemple, donc il a été calculé qu'en moyenne, sous chaque lampadaire meurent 150 insectes par nuit. Donc, en fait, tous ces insectes, voilà, donc c'est une perte phénoménale qui ont ensuite des incidences sur d'autres espèces, etc., etc. Donc, c'est un des points forts pour lesquels on veut agir sur cette thématique.
Pour l'été, j'imagine, avec la pleine période touristique, vous aurez cette même volonté.
Oui, il y a pas de raison. Après, c'est vrai que peut-être, voilà, il y a pas mal de villes qui finalement ont mis des, par exemple, des grandes villes. Je pense notamment la ville de Thiers, par exemple, donc qui a 12 000 habitants, a mis une différenciation entre plutôt une saison hiver et une saison été. Donc en été, ils éteignent un peu plus tard, ils éteignent à 1h du matin. Et c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte parce que voilà, on est une ville touristique. Il y a une, voilà, la vie nocturne a aussi toute sa place avec les restaurants, les bars, etc. Donc il faut réfléchir à ça et pourquoi pas, voilà, fermer plus tard l'été, parce qu'en effet, peut-être minuit, ça fait un peu tôt, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui sortent des restaurants ou des bars. Donc voilà, c'est des choses à réfléchir avant de mettre ça en place.
Le retour des lampes de poche aussi, peut-être à prévoir dans le futur, parce que moi j'ai quand même souvenir que quand la nuit est noire et qu'il n'y a pas de lumière, on ne voit vraiment rien. Moi je me suis cogné sur des murs parce que je ne les voyais pas, c'est pour ça. Donc il y aura toujours quand même une possibilité de s'éclairer. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver dans ce rendez-vous du mercredi 8 juin? Est-ce qu'il y aura des représentations, à part vous, de personnes qui pourront peut-être aussi éclairer ce sujet?
Alors, il n'y aura pas beaucoup d'invités sur cette réunion-là, mais je pense qu'après, justement, toute la phase d'expérimentation pourra être justement tout au long d'organiser des événements de sensibilisation sur cette thématique. Il y aura néanmoins une personne du parc régional naturel du Vercors qui viendra présenter un petit peu ce projet de réserve internationale de ciel étoilé et plus globalement leur travail aussi de réduction de la pollution lumineuse, parce que je pense que ça fait bien 10-15 ans que le parc travaille là-dessus. Mais après, voilà, on voulait aussi plus que ce soit un temps de rencontres entre les habitants sur cette thématique plutôt que d'en faire quelque chose de trop théorique avec beaucoup de présentations où les gens écoutent mais où il y a plus d'échanges. Donc voilà.
Toutes les questions seront possibles d'être posées sur ce sujet. Vous aurez certainement des thèmes principaux qui seront abordés, que vous avez déjà préparés, j'imagine.
Oui, comme on le disait, l'éclairage public, c'est vraiment un peu au carrefour de différentes thématiques. Donc, c'est vraiment en fait faire prendre conscience aux gens que cette notion d'extinction, elle a un impact sur la biodiversité, comme on le disait, mais aussi sur la santé humaine. C'est vraiment pas négligeable. Et aussi sur la sobriété énergétique et les économies de la commune.
Dominique, je crois que c'était hors micro, il me semble, tout à l'heure, vous disiez, suite aux réunions publiques, des personnes se trouvaient un peu gênées par la lumière nocturne.
Oui, on a eu un mail encore ce matin. Oui,
ça en fait. Par exemple, je crois que l'invitation est partie, l'invitation à cette réunion publique est partie hier ou ce matin. Et là, déjà, on se voit retransférer des mails d'habitants qui étaient donc dans le mailing list des réunions de quartier pour nous dire on ne sera pas là, on ne sera pas présent le 8 juin. Mais oui, s'il vous plaît, nous, on est partant pour éteindre. Encore un habitant nous disait, et puis nous, on traverse souvent la ville à vélo, on habite au Batté, on va au cinéma. Donc, on fait beaucoup de vélo la nuit, mais il n'y a pas de problème pour éteindre. Voilà, on est équipé. Et c'est vrai que notamment, c'est vrai qu'à Die, en fait, il y a beaucoup de vélos qui peut-être aujourd'hui ne sont pas équipés en éclairage sur leur vélo et qui de fait devront s'équiper. Mais du coup, c'est des choses qui peuvent se réfléchir en lien avec le collectif vélo ou des choses, de faire des ateliers pour monter des dynamos. Et puis il y a plein de choses à imaginer.
C'est une réunion qui commence à 18h30. Vous envisagez une durée de combien ?
si j'osais dire jusqu'à la nuit tombée. elle durera le temps qu'il faudra, puisqu'on va beaucoup échanger. L'idée, c'est vraiment de comprendre tout l'intérêt de ce dispositif. On n'est pas très inquiet, hein, on a même peur qu'on nous demande d'aller plus vite. Et c'est vrai que techniquement et financièrement, ça nécessite quand même quelques travaux. Donc, il faudra qu'on prenne notre temps. Mais je le redis, pour habiter une rue non éclairée, quel plaisir de pouvoir lever la tête en rentrant chez soi le soir, de voir des constellations qu'on ne voit pas quand le ciel est pollué et il ne l'est pas dans le Diois, ou quand il y a de l'éclairage proche. Alors ça a une autre fonction aussi, je vois bien en vélo avec éclairage, puisque j'ai un vélo électrique donc tout va bien, c'est qu'on croise beaucoup d'animaux aussi. Hein. J'ai commencé par le blaireau, mais le vrai, hein, le quatre pattes, le renard, le loup si on a de la chance, mais le chevreuil, parce que le chevreuil il bouge le soir aussi, donc ça permet une redécouverte de son environnement. Moi je pense réellement qu'on sort de son halo de lumière fermé, humain, à une redécouverte de son espace de vie. C'est quelque chose qui est formidable.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé de ça pour l'instant, mais de la valorisation touristique que peut avoir aussi en fait cette notion d'éclairage nocturne, et de retrouver en fait de sensibiliser et de valoriser autour de la vie la nuit. Avec, je pense notamment donc en octobre, il y a donc le jour de la nuit qui va valoriser ça, mais ça peut être aussi voilà des balades nocturnes à l'écoute des bruits de la nuit, des balades sous les étoiles d'observation, et donc ça peut être aussi un vrai vecteur de voilà de tourisme en fait, où les gens peuvent venir ici pour profiter justement de cette qualité de ciel. Et donc c'est vrai que la commune aussi souhaite adhérer donc à l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc voilà, qui est une association nationale experte depuis 20 ans sur le sujet, et qui notamment organise en fait un concours avec un label à la clé, donc de villes et villages étoilés. Donc comme vous voyez peut-être, les villes et villages fleuris, c'est un petit peu la même idée, mais là c'est en nombre d'étoiles, et qui permet vraiment de valoriser ça, et donc voilà, c'est une démarche qui nous intéresse.
Ce dispositif est pour l'instant sur 10. Est-ce qu'il y a une réflexion pour étendre aussi cette extinction des lumières sur le Diois et dans les principales communes du Diois?
Bon, on sera de toute façon à disposition des communes qui souhaitent le mettre en œuvre. Alors, je le dis modestement, c'est peut-être plus facile dans les petites communes où on a moins de points lumineux, où on a un bourg-centre très, très regroupé. C'est un peu plus compliqué sur 10, où on a quand même des lotissements, on a quand même une zone d'activité. Donc, la démarche est un peu plus longue sur un bourg-centre, comme dit, que plutôt sur une commune. Mais il est clair que si la CCD souhaite s'emparer, elle s'en emparera vu l'augmentation du coût d'énergie, nous serons bien sûr à disposition de l'ensemble de nos collègues du Diois pour la démarche, pour des réunions de sensibilisation s'il le faut. Oui, bien sûr, c'est un schéma. Plus on sera large géographiquement, mieux ça sera, en tout cas pour la biodiversité et l'environnement.
Mais à savoir qu'il y a déjà quand même pas mal de petites communes du Diois qui pratiquent aujourd'hui l'extinction nocturne.
Minglon, je crois, hein, il me semble.
Oui, je pense à Chamaloc, Menet. On en oublie.
Il y en a un certain nombre. Oui, ça bosse déjà. Hein. C'est les petites communes ont les petites communes ont beaucoup anticipé, souvent sans d'ailleurs consulter leurs habitants, parce qu'à 11h30, minuit, dans ces communes-là, il n'y a plus personne dehors. Hein, donc.
Vous avez cité cet organisme national qui a une vingtaine d'années. Quels sont les autres? Est-ce qu'il y a d'autres organisations, ne serait-ce qu'au niveau de l'État, qui motivent cette démarche?
Mais oui, il faut savoir que déjà la prévention donc, et la réduction de la pollution lumineuse est prise en compte dans certaines lois, dans certaines réglementations. Je pense notamment donc, à un arrêté donc, du 17 décembre 2018 pour justement prévenir la réduction... pour faire la prévention donc, et la limitation des nuisances lumineuses. Et donc, dans cet arrêté, il est préconisé justement que les gestionnaires d'installations d'éclairage lancent une réflexion sur les possibilités d'installation d'extinction de leurs installations. Donc il y a quand même une réflexion nationale à ce niveau-là. Et cette lutte contre la pollution lumineuse, elle est revenue dans les lois Grenelle 1 et 2, dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, mais aussi dans la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ça, c'est une question que je vous pose, mais ça sort un peu du cadre. Je me souviens, en étant à Paris, il y a eu une campagne d'économie d'eau sur la consommation. Est-ce que les Parisiens ont fait, effectivement, hein, ce qui a réduit énormément aussi le profit pour les entreprises qui géraient l'eau et qui ont finalement augmenté leurs tarifs pour pouvoir rattraper la perte. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte aussi de ces gestionnaires d'éclairage de leur part?
Alors, pas vraiment, puisque, en tout cas, sur le marché qui n'est pas réglementé, hein, le marché public, c'est un appel d'offres via le syndicat local. Donc, pas vraiment. On parlait de chiffres tout à l'heure, alors je ne les ai pas en tête. Nous augmentons régulièrement notre production et notre consommation électrique. Elle ne baisse pas pour l'instant. Et alors, je vais pas rentrer dans un grand débat de pro ou contre nucléaire, mais on voit bien qu'aujourd'hui, notre production électrique basée essentiellement sur le nucléaire atteint ses limites. La sécheresse formidable qui s'annonce cet été, et j'espère qu'elle ne touchera pas les habitants, nous montre bien qu'on ne pourra pas refroidir nos centrales, probablement qu'il faudra en arrêter certaines, c'est déjà dans les arcanes de l'État. Donc il faudra qu'on baisse de toute façon, à un moment ou à un autre, notre consommation. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté forte de consommer. C'était le cas quand nous étions à pleine puissance, qu'il n'y avait pas encore forcément de climatisation l'été. Je vous donne un chiffre aussi, il faut bien prendre conscience. Lyon a passé le cap 2017 en consommant plus d'électricité l'été que l'hiver. Ça veut dire quelque chose, hein, en termes d'éclairage, c'est plutôt l'hiver. En termes de chauffage, c'est plutôt l'hiver. Maintenant, là, la clim avait pris le dessus. Donc, on produit. Non, on n'aura pas cette volonté-là de consommer encore et toujours plus.
Oui, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour ces grandes entreprises. Je pense qu'il faut plutôt se soucier de notre biodiversité et de la santé des habitants du Diois.
Est-ce que dans votre démarche, vous avez pu constater un intérêt important de la population pour justement cette idée de l'éclairage éteint ?
Oui, je pense qu'en tant qu'élu, on a souvent été interpellé là-dessus. Et c'est vrai que moi, quand j'en parle autour de moi, en fait, voilà, globalement, les gens sont très intéressés par cette démarche et disent mais oui, mais carrément. Et il y a tout ce gaspillage, en fait, de lumière aussi qui est fait et qui questionne beaucoup de gens. Et donc, c'est vrai que cette réunion publique sera aussi, voilà, on va mettre en place, en fait, un sondage à destination de la population. L'idée, c'est que cette réunion publique en soit un petit peu le lancement. Un sondage, justement, qui poserait différentes questions aux habitants. Donc, est-ce que l'extinction pourrait les gêner? Si oui, pourquoi? Selon vous, quels pourraient être les effets de cette expérimentation sur différents points? Et si oui, qu'est-ce qu'ils pensent de l'extinction sur la plage qui est proposée, etc. Donc voilà, on va mettre en place ce sondage qui sera donc, il y aura des versions en ligne, mais aussi des versions papier qui pourront être retrouvées en mairie. Pour se faire une idée aussi avec, les gens pourront bien sûr laisser aussi des commentaires et des questions, des remarques.
Voilà un univers de nuit qui réveillera peut-être l'imagination aussi.
Oui, on va, je pense, produire un recueil de contes pour les soirées nocturnes.
Non, mais moi, quand j'étais enfant, effectivement, on avait les rues noires, hein, la nuit. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait même pas de lampadaire. Donc, dès que la nuit arrivait, il y avait cette espèce de mystère qui arrivait de la nuit. Et c'est pour ça que je parle d'imagination, parce que surtout quand on est enfant, on peut s'imaginer plein de choses. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément dans le Diois parce qu'on a quand même une qualité de ciel qui, par rapport à d'autres endroits, est assez préservée, notamment parce que on est entouré de montagnes. Mais il faut savoir quand même que il y a 99% donc des Européens qui vivent donc sous un ciel entaché de pollution lumineuse, et 60% des Européens ne voient aujourd'hui plus la Voie lactée. Donc quand on y pense, c'est un peu triste quand même.
Oui, nous on peut encore la voir, hein, mais j'ai vu des images où ça n'a rien à voir encore avec ce que nous on a déjà. Hein. Voilà, ça va être fabuleux à voir, j'imagine. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait ? Les renseignements aussi, pour connaître un peu plus. Est-ce qu'il y a des données sur un site internet ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que prochainement sur notre site, alors pas tout de suite, puisqu'on est en train un petit peu d'améliorer l'information qui s'y trouve, il y aura un dossier sur l'extinction nocturne avec l'évolution sur 10. Voilà, j'en dis pas plus, je sais pas si on passera par rue, si on passera par lampadaire, je sais pas encore, mais on informera régulièrement sur notre site, et puis bien sûr on se retrouvera sur une réunion bilan, probablement à la sortie de l'automne, pour faire le point, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles sont les attentes si on va plus loin, quels sont les problèmes techniques qu'on rencontre, parce qu'on va en avoir très clairement. Donc voilà, on se quitte pas, on commence à se rencontrer, mais on se reverra.
Est-ce que, oui, je voulais juste, je vous laisserai après, est-ce qu'il y a, par exemple, des réflexions sur possibilité d'envisager des visites de rue en nocturne pour analyser ou aussi peut-être prendre en compte l'avis des quartiers, à savoir ce qui serait optimal pour certaines rues ?
Ah, c'est un peu l'opération bilan qu'on mènera, je pense. C'est-à-dire que ça, on confie ce côté balade de nuit aux habitants, voir quelles sont les problématiques. Je vous donne un exemple. Quand je monte en Bretagne, j'y monte souvent de nuit. Alors, je ne monte pas toutes les années non plus. On passe par les petites routes, on croise beaucoup de villages où les seuls éclairages qui existent, c'est les passages piétons. Même à 2h du matin, parce qu'effectivement, si quelqu'un traverse, il vaut mieux qu'on le voit, même à 2h du matin. Donc, il y a peut-être ces choses-là qui ressortiront, peut-être des coins un peu pentus, délicats à appréhender, qu'une petite lampe ne suffira pas. Donc, voilà, alors on ne veut pas anticiper. Je crois vraiment que la pratique de tout à chacun nous donnera des éléments de poursuite.
Mais c'est vrai que voilà, donc sur les le retour en tout cas des villes qui mènent l'extinction nocturne, justement c'est de voir tous ces points, peut-être en tout cas on pense là à la circulation, hein, sans forcément parler d'éclairage, mais parfois c'est simplement en fait des dispositifs réfléchissants au sol avant un rond-point ou un petit point dangereux et tout ça. Donc ça, c'est justement, ce sera vraiment de travailler en fait en lien avec avec les services de la mairie, les autres élus concernés, voilà, sur la mobilité, pour faire un point justement où est-ce qu'on a besoin d'installer des dispositifs justement pour faire attention à ce qui est pas plus de dangerosité, mais à savoir vraiment qu'il a été, enfin voilà, sur toutes les communes qu'il exerce, en fait il est montrer que c'est pas parce qu'on éteint qu'il y a plus de danger au niveau de la circulation. Au contraire, les gens ont tendance à rouler moins vite quand c'est éteint. Et ça évite justement ce qu'on disait tout à l'heure, les différences avec un endroit très éclairé et une zone obscure qui peut du coup cacher parfois certains dangers. Donc les gens, voilà.
Eh bien voilà, en tout cas je vous remercie Alice Corouen et Dominique Joubert d'être venus nous parler de cette idée de « si on éteignait la lumière ».
Bah, merci à vous.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.